Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour à tous, nous voici dans les arènes de l'écologie. Comme promis, eh bien, on fait notre émission spéciale sur Mayotte, hein, Mayotte 60 jours après Chido. Alors, on est en compagnie d'Anne Constance. Alors, Anne-Constance, donne-moi ton nom parce que je le bafouille à chaque fois.
Anne-Constance Onguena.
Voilà. Et puis après, il y a Séverin Ménard, c'est plus facile à dire.
Bonsoir.
Et puis, on aura tout à l'heure en ligne Serge Brock et puis Franck à Bordeaux. Alors, donc, pourquoi Mayotte ? Dans les arènes de l'écologie, Mayotte, tout ça, c'est pas forcément vu de loin une évidence. Mais bon, pour moi, il y avait une évidence. Pour nous, oui, parce que je vous informe, Ben n'est pas là aujourd'hui, il a la grippe. Donc, je suis tout seul comme gladiateur au sein de l'arène. Donc, oui, alors pourquoi Mayotte ? Tout simplement parce que Chido, on peut considérer que c'est une conséquence directe et inédite du réchauffement climatique. Et parce que si les risques et la gestion des risques naturels faisait traditionnellement partie du périmètre du ministère de l'écologie, qu'on a appelé aussi ministère de l'environnement, puis depuis qu'il est devenu ministère de la transition écologique, j'ai du mal à savoir quelles sont exactement ses attributions. Bon, on a un petit peu... par moments, je me dis que c'est un peu la confusion des genres, mais bon, allez, je ne vais pas jouer les scrogneux, on va passer au vif du sujet. Alors, le vif du sujet, on va quand même commencer par les petites nouvelles de Roquechlore. Alors, Roquechlore, vous avez tous compris maintenant que ce n'est pas la marque de cassoulet, c'est l'hôtel de notre ministre de l'écologie, de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait de beau cette semaine, notre ministre ? Bon, d'abord, elle m'a fait mentir, puisque elle s'est bien intéressée au côté vert, si ce n'est au côté sombre de l'IA, en mettant son hôtel à la disposition du forum pour une intelligence artificielle durable. Bon, je n'ai pas trop vu ce qu'il en était ressorti, mais on verra ça dans les prochaines semaines. Manifestement, ce n'est pas simple à digérer. Pour le reste, je vais faire un peu court, un peu plus court que les semaines précédentes. Disons que le penchant maritime du ministère de l'aménagement du territoire et de la transition écologique que nous avions observé depuis un mois se rééquilibre légèrement. Je ne vais pas vous faire subir la litanie des rendez-vous, mais disons que sur les 17 dates que j'ai repérées, seules 7 cette semaine étaient en relation directe avec la mer. Bon, donc Agnès Pannier-Runacher n'a pas fait que de la mer cette semaine, elle a aussi prêté attention à la biodiversité, une fois avec la ministre colombienne et présidente de la COP16, deux fois elle s'est intéressée à la forêt, bon, mais vu les personnalités des interlocuteurs, à savoir la présidente de l'ONF ainsi que celle de la forêt privée, je pense qu'on a parlé un peu plus business que biodiversité. Bon, mais ça c'est mon côté mauvaise langue. Bon, le climat a eu aussi son heure d'attention pour la ministre, une heure à peine plus d'ailleurs, puisqu'elle était en rendez-vous avec Jim Skate, je ne sais pas trop le dire, vous avez tous compris que j'étais nul en anglais. En tout cas, c'est le très écossais président du GIEC, alors qui est un professeur d'économie du climat et des énergies durables à Londres. Bon, et pour agrémenter la semaine, la ministre a aussi reçu trois politiques, trois députés, l'un des Côtes d'Armor, donc peut-être la maire, mais allez savoir, il y avait aussi un député de la Savoie, donc on compense avec un peu de montagne, et puis un troisième, le député de l'étranger, mais néanmoins parisien, puisqu'il est né à côté, dans le 11e arrondissement, à savoir Roland Lescure, le vice-président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'Industrie. Bref, la mer est en reflux, mais largement prédominante encore dans l'agenda du ministre. Bon, ceci étant, on va en revenir à Mayotte. Donc Mayotte, on va commencer par Anne-Constance. Alors Anne-Constance, je crois que vous avez eu une expérience très particulière de Chido. Je vous avais vu sur la télé Quasi TV, parce que vous êtes à la fois radio, télé et puis journal. Donc vous présentiez le 14 au matin l'émission, tout avait l'air d'aller bien, ou à moins que ce soit le 13. Vous annonciez la venue prochaine de Chido. Manifestement, à ce moment-là, vous n'aviez pas l'air d'être effrayée. Mais bon, je crois que ça a changé.
Non, effectivement, on n'était pas... C'était le 13, effectivement, où il y avait le préfet qui était invité et qui lui était très inquiet. Ah oui. Et qui venait sensibiliser la population et essayer de nous convaincre de nous préparer au passage de Chido. Et effectivement, le 14, dès 9h du matin, les choses ont changé parce qu'on a pris conscience de ce qu'était un cyclone avec des rafales à 256 km/h, hein, ce qui est énorme. C'est un des plus gros cyclones que les îles d'outre-mer françaises aient eu à connaître. Et effectivement, ce cyclone a tout dévasté, que ce soit les bidonvilles, que ce soit les bâtiments plus traditionnels, en dur, comme nous on dit à Mayotte. Et ça, je crois que personne n'était préparé à ça.
Pourtant, des cyclones, vous en avez vu d'autres?
Non, on n'a pas eu de... Le précédent cyclone à Mayotte, c'était en 1984.
D'accord.
Et la moitié de la population à Mayotte a moins de 20 ans. Donc, autant vous dire que les gens qui habitent à Mayotte aujourd'hui ne savaient pas. Je parle bien au passé, hein, parce que maintenant, on a tous bien compris. Hein. On ne savait pas ce qu'était réellement un cyclone. Et c'est vrai que moi, ça fait 15 ans que j'habite Mayotte. Et on m'a toujours dit, mais t'en fais pas, Madagascar nous protège. Il n'y a pas trop de risques. Donc moi, ben voilà, j'ai vécu avec cette histoire commune, cet héritage patrimonial, on va dire, qui a été largement balayé le 14 décembre avec l'arrivée de ce monstre qui nous a pendant 3 heures à peu près intégralement détruit.
Ah, pas plus de 3 heures quand même, mais 3 heures.
C'est très long, hein. Oui. C'est très très long, très très long, 3 heures déjà.
Mais oui, alors, et ton expérience personnelle et puis celle de la radio, comment vous avez supporté la chose?
On avait déjà, sur la télé, la radio, on avait éteint notre matériel, puisqu'on a l'habitude des coupures d'électricité, qui sont en général pas très très bonnes, hein, pour le matériel. Donc on s'était préparé de la sorte, on ne s'imaginait pas que nos toits allaient s'envoler. Et effectivement, le toit de la télé et de la radio s'est partiellement envolé. Laissant la moitié du studio à l'air libre, si vous voulez. Et voilà, donc
le matériel, les caméras, les micros, tout ça, ça a pris l'eau.
Alors, on avait rangé les choses quand même. Donc, effectivement, tout n'a pas pris l'eau. Une grosse partie a été abîmée, puisque le toit, en fait, est tombé sur l'armoire du matériel extérieur. Donc ça, effectivement, tout est cassé dans cette armoire. Notre régie, elle, a été protégée par le premier cyclone, mais elle a souffert du deuxième cyclone, puisque 3 semaines après, on a eu Dikiledi. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a plus grand-chose qui marche. Mais la Fédération nationale des télévisions locales, Antenne Réunion et Mayotte la première, nous ont donné généreusement du matériel, ce qui nous a permis de réinstaller notre studio. Et on va pouvoir redémarrer le 24 février les émissions en direct à la télé et à la radio. Donc,
24 février, c'est bientôt.
Oui, mais c'est 2 mois, si vous voulez, intenses où on a... C'est des choses toutes bêtes, mais trouver des bâches, trouver quelqu'un pour installer les bâches sur le toit, poser des planches, parce que un matin, j'arrive dans le studio pour envoyer des fichiers et je m'assois à ma place, comme vous êtes assis là, je m'assois. Oui. Et je lève les yeux, je vois le ciel, mais je vois aussi des maquis dans le studio.
Donc, alors, des maquis, c'est-à-dire des sushis ou...
Non, pas du tout. C'est des petits lémuriens qui sont adorables et mignons comme tout. Et ils étaient tous les trois, une famille, donc le père, la mère et un enfant. Ils étaient tous les trois assis sur les poutrelles qui soutiennent ce qui restait du toit et me regardaient. Je me suis dit, oh, que c'est trop mignon. Mais en fait, ça fait beaucoup de dégâts,
ah bon,
à vrai dire. Donc, on les a remis à l'extérieur, hein, évidemment. On leur a pas fait de mal. On a mis des planches pour les empêcher de rentrer à l'intérieur du studio parce qu'on ne peut pas abîmer le peu qui nous reste, si vous voulez.
Ça fait quoi, les maquis? Ça mange les micros?
Non, ça laisse des excréments partout.
Ah, d'accord, oui.
Voilà, voilà. Et dans les prises électriques, c'est pas terrible. Voilà.
D'accord, oui, pour circuit de maquis, oui, ça peut être surprenant.
Mais c'est un peu, c'est à peine caricatural, parce que c'est un peu notre vie à tous. La biodiversité, enfin la forêt a été complètement ravagée. Donc tous ces animaux qui sont des espèces endémiques, hein, les maquis de Mayotte, c'est une espèce endémique. Il en existe quelques-uns à Madagascar, mais il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde. Et ils ont été largement détruits par... Enfin, il y a eu beaucoup de spécimens, enfin, beaucoup d'animaux morts. Ah, et oui. Puis, forêt détruite, ça veut dire habitat naturel détruit. Les arbres qui n'existent plus, ben, il n'y a plus d'alimentation. Donc les animaux se sont rapprochés des centres-villes, se sont fait beaucoup écraser par les voitures, parce que ben, n'étant pas habitués aux voitures. Donc c'est vrai que...
Donc les répercussions, les répliques entre guillemets de ce fameux cyclone sont bien sont nombreuses,
ouais,
et un peu inattendues, quoi. Parce que ça, par contre, on n'en a jamais entendu parler à la radio française ou à la télé française.
Mais c'est une réalité. C'est la forêt dévastée. On a une forêt. On est le 64e hotspot de biodiversité au monde. Forcément, quand vous avez un cyclone qui ravage tout, il y a forcément des conséquences écologiques importantes. Et la première qui est visible, en tout cas pour la population, ce sont ces maquis, ces petits lémuriens adorables, mignons comme tout, qui cherchent à manger. Et qui viennent jusque dans les centres-villes avec toute une polémique hein, qui en a découlé avec des spécialistes qui se sont affrontés pour dire faut leur donner à manger, non faut pas, enfin, et donc chacun a essayé de faire comme bon lui semblait, nous on a donné hein. C'est peut-être pas bien mais ils avaient faim et on leur a donné un peu à manger.
Écoute, j'ai pas trop d'idées sur la question. Nos naturalistes sont pas là cette semaine. On ouvrira peut-être un débat un jour ou l'autre. Mais il n'y a pas que les lémuriens et puis que Kwesi. Alors Kwesi, ça veut dire quoi déjà ?
Kwesi, ça veut dire bonjour. Ah. Dans un langage parlé, très convivial et familial. C'est comme Hello, en fait.
D'accord.
Voilà.
Les radio bonjour, c'est
voilà.
Sympa ça comme...
Bonjour.
Ok, alors vous redémarrez le 24.
Alors, on ne s'est jamais réellement arrêté, hein, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que le lendemain du cyclone, on a produit un journal papier, puisque Kwesi, c'est un journal, France Mayotte Matin, c'est une chaîne de télévision, Kwesi Télévision, une chaîne de radio, Kwesi FM, et puis également un site internet d'information, l'infokwesi.fr. Et dès le 15, il y avait des publications sur l'infokwesi.fr. On a publié le 16 décembre une édition spéciale, évidemment, de France Mayotte Matin. Et puis, on ne pouvait plus produire de direct puisque notre machine est cassée. Donc là, pour le coup, je l'ai ramenée.
On voit quand même des choses sur votre site internet. J'ai vu des actualités sur des questions de sécurité.
Exactement. On publie depuis le 15. En fait, on ne s'est pas arrêté.
Oui,
et à la télé, à la radio. Alors, la radio, les émetteurs qui ne nous appartiennent pas, qui sont les émetteurs de tous, eux sont tombés. Donc, on ne pouvait plus émettre.
Par contre, on peut vous suivre encore en ligne sur Internet.
Mais même à la télévision, on ne fait plus de direct, mais on a mis des boucles d'informations. Absolument.
Et l'autre fois, on voyait notamment une grosse émission sur l'Assemblée générale une Assemblée du Conseil général. Conseil départemental. Oui, Conseil général, c'est le terme peut-être ancien, je ne sais plus comment on disait en métropole. Donc oui, ça débattait, ça parlait d'essayer de définir quelles étaient les urgences parmi... Alors manifestement, les urgences, vous en avez plus qu'à... Donc c'est énorme.
Deux mois après, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui...
Par contre, il faut commencer par...
Donner les moyens aux gens de reconstruire leur maison. On a plus, c'est bête à dire, mais on n'a plus de toit. Nos murs, il y a des infiltrations quand les toits ne se sont pas envolés, ils ont bougé. Donc quand il pleut dans les maisons. Je crois aujourd'hui, on peut tous manger pas grand-chose. On sait faire depuis très longtemps, il n'y a pas un choix infini à Mayotte. Donc on peut se priver, ça c'est pas un souci. Mais on a besoin de dormir, protéger des moustiques et protéger de la pluie. Et la priorité aujourd'hui, c'est sûrement celle-là. À accompagner les habitants, les simples personnes à reconstruire leur maison, leur toit, à remettre un mur qui s'est effondré. Enfin, voilà, c'est ça l'urgence aujourd'hui.
parce qu'il va continuer à pleuvoir.
C'est la saison des pluies.
Oui, c'est la saison des pluies. Et comment on... Non, mais ça ne se reconstruit pas en deux minutes, des maisons.
Parce que on est bien d'accord.
Il y en a quand même des... C'est quoi? Il y a combien de maisons détruites, abîmées? Ça se compte...
80% du bâti est à terre ou lourdement abîmé. Quand vous êtes à Mayotte, vendredi dernier, je suis partie pour quelques jours. En l'occurrence, je suis revenue en métropole pour ramener notre outil de production audiovisuelle pour le faire réparer. Donc, je suis partie avec. Mais en partant, en prenant la barge pour rejoindre l'aéroport, je regardais la grande terre. Et en fait, la végétation a repoussé depuis.
Oui,
on est en zone tropicale, il fait très très chaud et la végétation est luxuriante, il pleut beaucoup, il fait chaud. Donc tout ce qui avait été détruit, enfin tout est à nouveau vert. Et en fait, vous regardez les maisons, les immeubles, il n'y a plus de toit en fait. Tout est sans tête. Donc on dit que 80 à 90% du bâti a été touché. Et aujourd'hui, il est urgent de remettre des toits sur la tête des maisons.
D'accord. Eh bien, dis donc, ça effectivement donne pas mal de travail. Et alors, j'avais cru comprendre qu'il y avait un lycée des bâtiments, des métiers du bâtiment en construction, mais il a l'air d'être en construction.
Oui.
Depuis combien de temps ?
Je ne sais pas, les travaux ont commencé il y a une petite année, mais c'est un bâtiment énorme. Il y a un lycée, il y a un collège à côté, il y a un internat. Enfin, c'est un groupe scolaire, enfin une cité, on appelle ça nous des cités scolaires, qui sont énormes. Et le lycée, on a des métiers du bâtiment qui est à Longoni. Les travaux ont repris pour continuer à le construire. Et normalement, on attend à ce qu'il soit prêt pour la rentrée de septembre.
D'accord.
Bon, Inch'Allah.
Oui, mais c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, parce qu'il n'y en avait pas. Alors, il y a un lycée d'agriculture, un lycée technique agricole,
en
Coconi, oui, dont on parlait beaucoup dans certains documents. Mais là, ça peut... Effectivement, ils ont un champ de travail énorme sur la construction anticyclonique, j'imagine que...
C'est des normes qui doivent être apprises, mais après, il y a les établissements scolaires où on forme les jeunes, mais il y a aussi les artisans qui ont déjà des entreprises aujourd'hui qui existent et qui ont besoin de développer le savoir-faire, d'apprendre les normes de construction anticyclonique. On a aussi depuis quelques années maintenant, depuis 2019, un volcan sous-marin en activité à 50 km de la petite Terre, avec un nouveau risque qu'on n'avait pas avant, risque sismique et tsunami.
Ça vous manquait, oui, tout à fait. Mais bon, ça, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure.
Ce qui veut dire qu'il faut construire en respectant toutes ces nouvelles normes, et c'est des choses nouvelles que doivent apprendre nos artisans, et ils ont besoin d'apprendre.
D'accord. Eh bien, écoutez, on va pouvoir méditer tout ça, penser un petit peu... essayer d'intégrer toutes ces réalités mahoraises, notamment en écoutant une musique que nous a transmise Patrick Milan, le patron de Quasi. On en a pour 4 minutes, je crois, de musique. Et voilà, c'est parti.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Sarialo, sarialo,
la la la.
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 Oh yeri la,
oh.
Oh yeri la,
oh.
Oh yeri la,
oh. Oh ya he.
Oh yeri la,
oh.
Oh yeri la,
oh.
Oh yeri la,
oh. Oh ya he.
Trongwa mbana uta.
Solola.
Ayana ute.
Solola.
Ewona ute.
Solola. Solola.
Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Bon, Anne-Constance, est-ce que tu peux nous désannoncer la musique qu'on vient d'entendre parce que...
c'est une musique qui est très connue hein, à Mayotte, qui est la musique du générique d'une émission très célèbre, qui est en fait 100% Mayotte. Voilà, c'est des chansons de deux personnages, M'Toro Chameau et Mickey Dash, et voilà.
D'accord. Ah ben, M'Toro Chameau, c'est pas le nom du chanteur, là.
Ah si. En fait, c'est des artistes. À Mayotte, les gens ont beaucoup l'habitude de jouer ensemble. Voilà, ce sont des artistes qui travaillent beaucoup, qui sont très célèbres sur notre île.
Bon, ben, c'est très sympa et effectivement, ça mérite d'être connu. Alors maintenant, on va passer à un autre... à d'autres interlocuteurs, donc à savoir Serge Brock et Franck et des associations de l'association Unigaïa Solidarité qui lance l'opération 1000 fontaines pour Mayotte. Alors je crois qu'on a Serge en ligne et Franck également. Ah voilà, bah, écoute Serge, on t'entend. Alors Serge n'est pas tout prêt, hein, il est à Athènes. Serge a des multiples activités, dont notamment... c'est un spécialiste des questions d'eau. Et alors, est-ce que vous nous entendez ? Vas-y, parle.
Oui, très bien.
Voilà, ils ont l'air bon. La régie me dit que ça passe. C'est bon ? Voilà, continue à te présenter. Alors, Serge, qui es-tu ? C'est quoi Unigaïa Solidarité ? Explique-nous tout. Et puis, c'est quoi cette idée de 1000 fontaines à Mayotte ? Vous êtes quoi ? Vous êtes des sourciers ? Vous avez des pouvoirs spéciaux pour faire jaillir l'eau des volcans ? Raconte-nous ça un peu.
Et on a un pouvoir très important, c'est que nous sommes des gens très solidaires et qui plaçons les problématiques de l'eau vraiment en toute première priorité. Dans le cadre du développement durable, bien entendu, des changements climatiques. Et Mayotte est un véritable laboratoire pour ce que nous avons à faire. En effet, Unigaïa Solidarité a lancé un certain nombre d'opérations sur l'Afrique pour envoyer des fontaines de purification d'eau à des écoles, et ce en partenariat avec des collèges en Gironde. Donc en fait, on établit des relations entre les élèves africains et les élèves français pour leur faire toucher du doigt les réalités concrètes de terrain et leur faire travailler sur les ODD tout en organisant...
Alors ODD, ça veut dire...
collecter de l'argent.
D'accord. ODD, ça veut dire Objectif Développement Durable, c'est ça
Oui, c'est les Objectifs du Développement Durable de l'ONU.
Ah d'accord. Donc, ça,
alors bien entendu, dès que nous avons appris la catastrophe de Mayotte, nous nous sommes mobilisés et nous nous sommes dit, mais que pourrions-nous faire ? On a tout de suite entendu le programme qui consistait à envoyer des conteneurs de packs d'eau à Mayotte, ce qui nous a paru évidemment une solution d'extrême urgence, mais totalement catastrophique d'un point de vue écologique, puisque ça représente des millions de bouteilles d'eau plastique dans un département très petit, un territoire très petit où il n'y a pas de véritable traitement et une bonne partie vont se retrouver à la mer. Alors déjà, après la catastrophe climatique, on va avoir une catastrophe écologique. Alors, parodiant la Haute-Se, on s'est dit, si tu donnes un pack d'eau à une famille, elle boira quelques jours. Et si tu lui donnes un moyen de filtrer l'eau polluée sur place, elle boira toujours. Et voilà comment a démarré cette idée d'essayer de mobiliser le maximum de personnes morales et personnes physiques en France pour envoyer un ou plusieurs conteneurs de fontaines de purification d'eau à Mayotte.
Alors, quand tu dis fontaine, en fait, c'est un épurateur. Donc, alors, ça fonctionne comment ? Il y a des filtres ? C'est une technologie qui vient d'où ?
En fait, il y a deux types de produits, on va dire, dans ce domaine-là. Il y a tout ce qui peut s'utiliser sans énergie, c'est-à-dire par capillarité. On fait passer de l'eau à travers des fils. Hein. Et là, on est dans ces situations d'urgence, que ce soit en Afrique ou à Mayotte, on est fuite d'eau dans ce cas-là. Et puis après, il y a des systèmes plus sophistiqués qui nécessitent de l'électricité avec des procédés type osmose inverse, bon, qui eux sont peut-être beaucoup plus performants, mais nécessitent effectivement
une infrastructure plus lourde, oui,
existante. Voilà.
Alors, on me disait aussi que vous étiez des spécialistes de la coopération triangulaire entre le Sud et le Sud et la France. On m'avait parlé, je crois, de coopération France-Inde-Afrique. Et là, on vous arrêtez, oui, sur en bon chemin du côté de Mayotte pour passer des... Ces techniques, elles sont adaptées aux zones intertropicales, si je comprends bien. Et si j'ai tout compris aussi... Elles sont fabriquées en Inde, ces fontaines.
Oui, alors, je ne me suis pas vraiment présenté. Disons que moi, je suis un spécialiste depuis quelques années. Je travaille énormément sur toutes les problématiques de l'eau. Et j'ai beaucoup travaillé en Inde, notamment à Auroville et dans différents secteurs, sur ces problématiques. Et il s'avère que les problèmes de l'eau en Inde sont exactement les mêmes que les problèmes de l'eau en Afrique et aujourd'hui à Mayotte. C'est-à-dire que on a plus de solutions, nous semble-t-il, à aller chercher dans une dynamique sud-sud-nord que dans une problématique nord-sud comme on le fait généralement. Donc aujourd'hui, nous essayons effectivement de faire travailler ensemble des Indiens et des Africains. Et nous, bien entendu, qui assurons une certaine forme de coordination et qui essayons évidemment de collecter des fonds.
Aligre FM 93.1.
D'accord. Donc, grosso modo, c'est vrai que l'Inde, c'est pas tout à fait un pays anodin. C'est effectivement le discret grand géant de la planète. Et donc, ça veut dire que ces solutions-là fonctionnent dans ce qu'on appelle le sous-continent indien, qui desservent c'est par centaines de millions de personnes, alors.
Bon, en fait, l'Inde, qui est d'actualité aujourd'hui, on a parlé... à la radio, aussi à la télévision. Bon, l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, dont 400-500 millions qui vivent à peu près aux normes européennes, occidentales, 300-400 millions qui n'ont plus de problèmes de survie, on va dire, et le reste avec encore des problèmes. Bon, ils n'ont pas des problèmes de famine, mais bon, ils sont extrêmement pauvres. Et 400 millions, c'est quand même pratiquement l'Europe, hein, déjà, au niveau des populations qui ont des moyens. Alors, pour eux, la problématique de la fontaine est absolument évidente. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ben, ils achètent des fontaines de filtration, tout simplement parce que les réseaux locaux, quand ils existent, ne sont même pas totalement potables. Et c'est très exactement ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'eau qui est remise en route à travers les réseaux actuellement, mais cette eau est très très loin d'être potable. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais en relation avec une école de Mayotte pour faire un peu le point de la situation et surtout pour faire le point de la situation sur cette problématique de filtration, parce que il semblerait que les autorités ne soient pas très favorables à ce que on envoie des fontaines de filtration. Alors je me pose vraiment cette question et la réponse que j'ai eue de Mayotte, c'était de dire, par exemple, d'une école, hein, un enseignant: bonsoir, il y a réellement des forces contraires ici. Dès que nous demandons quelque chose, on nous répond que nous allons créer un appel d'air et que cela va attirer plus de sans-papiers à Mayotte. Dans mon école, il n'y a pas de système de potabilisation de l'eau. Nous dépendons de la mairie et résultat, nous buvons tous une eau non potable et il fait tellement chaud. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que quand je disais que Mayotte est un laboratoire, c'est vraiment bon, catastrophique, mais intéressant de considérer que on applique dans un territoire, on va dire africain, où les problèmes sont africains, des normes et des raisonnements totalement métropolitains. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on va plutôt chercher notre inspiration en Inde qu'en France à l'heure actuelle. C'est-à-dire que on est en train de nous dire que donner distribuer des fontaines à la population, ça va attirer les clandestins. Mais nous qui sommes une association solidaire, on considère que si on a de l'eau à donner, c'est pas en demandant les papiers aux gens. Ben, je sais pas, tout le monde a besoin de boire avec ou sans papier. Donc, on a vraiment cette problématique à régler de.
Bah, de toute façon, Serge, vous n'avez pas les données. Vous n'allez pas les distribuer, les laisser à disposition. Vous allez bien les confier à des gens qui sont, comment dire, qui sont organisés sur place. Vous allez les confier à qui, les fontaines, alors ?
Ben, aux mairies.
D'accord.
Donc, parce que, en fait, l'opération 1000 fontaines pour Mayotte, actuellement, est plutôt dirigée vers les collectivités locales, avec d'ailleurs le concours des écomaires de France. Et l'idée, c'est que on puisse mobiliser autour des mairies, les mairies.
Bon, il s'agit pas de toute manière de laisser les fontaines à qui veut les prendre. Donc, il s'agit bien de s'organiser et agir dans un cadre structuré et avec des gens qui sont en charge. Donc, c'est une compétence communale hein, que l'approvisionnement en eau.
Oui, bah, c'est la collectivité locale. Ouais, ouais. Absolument.
D'accord. Donc, et alors, en France, comment vous comptez agir ? C'est quoi le principe ? Comment vous voulez, comment vous allez les payer, ces 1000 fontaines ?
Alors, d'abord, il faut savoir qu'une fontaine rendue Mayotte, ça coûte à peu près 94 euros. Bon, et ça peut apporter de l'eau potable à une grande famille, je suppose que les familles sont assez nombreuses là-bas, et de façon, je dirais, assez pérenne pendant un certain temps, puisqu'on ne change les filtres que tous les 4000 litres, ce qui fait que dans une utilisation normale, ça fait à peu près un an d'utilisation. Alors, l'idée, c'est que, bon, idéalement, il y a 36 000 communes en France, alors on s'est dit, si chaque commune achetait une fontaine de 94 euros, ben on réglerait tout le problème. Alors on en est loin, bien entendu.
Oui, mais et puis bon, il faut aussi que les Mahorais puissent s'organiser eux-mêmes. Et effectivement, voilà. Je crois qu'il y a 17 communes, hein, de ce que j'ai pu voir, Anne Constance,
voilà, je parle sous ton contrôle. Voilà, il y a 17 communes à parrainer, en quelque sorte.
17 communes qui ont des compétences pour gérer l'approvisionnement en eau.
Non,
mais
elles n'ont
bon.
Aucune compétence pour gérer l'approvisionnement en eau. La compétence a été déléguée à un syndicat. Donc les communes ne s'occupent pas du tout aujourd'hui de la distribution de l'eau.
D'accord.
Non, mais bon, ceci dit, aujourd'hui, elles doivent participer à la distribution des colis alimentaires. Donc, les fontaines, ça peut faire partie.
Je rappelle juste, on est un département français. Ouais. On n'est pas l'Afrique, hein, on est un département français. Et si les bouteilles d'eau ont été envoyées à Mayotte, elles l'ont été aussi il y a 2 ans. Et notre problématique, ce n'est pas de rendre de l'eau potable. Notre problématique, c'est juste d'avoir de l'eau. Si vous voulez de l'eau, il n'y en a pas. Donc, potabiliser des trucs, c'est chouette, mais il faut qu'il y ait des choses à potabiliser. Et il n'y en a pas. Donc, les bouteilles d'eau qui ont été envoyées, elles ont juste pour vocation de donner de l'eau aux gens, parce que de l'eau, il n'y en a pas, vous voyez.
Mais
c'est ça la réalité mahoraise. Et en plus, les écoles sont sur le chemin de l'eau, et je suis désolée, hein, mais sur les 221 établissements scolaires, il y en a à peine 30 qui ne sont pas reliés au chemin de l'eau. Et donc, toutes les écoles...
Les chemins de l'eau, c'est les adductions, les réseaux d'adduction en eau, quoi.
En fait, on manque d'eau, on n'en a pas, si vous voulez.
Et pourtant, il pleut à Mayotte autant qu'en Bretagne.
Oui, mais on n'a pas d'eau, c'est ainsi. On pourrait en parler, mais je peux vous expliquer pourquoi il n'y a pas d'eau, mais il en a pour 3 heures. Mais
pas.
En réalité, la difficulté aujourd'hui, c'est de fournir de l'eau aux gens. Et les établissements scolaires ont tous été raccordés à ce que nous appelons un chemin de l'eau, c'est-à-dire des canalisations spécifiques qui permettent de donner le peu d'eau potable que nous avons en priorité à certains sites, dont les établissements écoles. Scolaires. Et aujourd'hui, sur les 221 écoles, il doit y en avoir encore une trentaine qui ne sont pas raccordées à ce réseau dit de chemin de l'eau.
D'accord. Bon, en tout cas, effectivement, alors, il y a l'air d'avoir des réalités assez contrastées et différentes à Mayotte. On ne peut pas faire une généralité, une moyenne. Ça pourrait...
Puis on est un département français, oui. je le rappelle, on n'est pas l'Afrique. Hein.
Oui, clairement, oui. Oui, alors, Serge, tu voulais ajouter quelque chose.
Je ne voulais pas
heurter à distance.
On appliquait ces solutions en Afrique. Il s'avère que j'ai vu que dans certains endroits, on filtrait l'eau avec des tissus. On était obligé, alors ce qui pollue encore plus l'eau parce qu'il y a les produits chimiques. On était obligé de faire bouillir l'eau, etc. C'est-à-dire que il y a un problème, semble-t-il. Hein, moi, je suis pas Mahorais, je suis pas Mayotte. Alors, excusez-moi d'avance. Mais ce qui m'a été dit par Mayotte à soif, c'est que là-bas, il y a des retenues collinaires qui étaient censées stocker l'eau, mais mal entretenues, qui fuient et qui sont de l'eau polluée. Et d'autre part, qu'il y avait une idée de que les citernes d'eau, alors ça, je pose la question, les citernes d'eau pour stocker, par exemple, l'eau de pluie, avaient été plus ou moins interdites ou retirées. Et là, en fait, quand vous dites qu'il manque d'eau...
Est-ce qu'il existe un état des lieux de la question de l'eau à Mayotte?
Mais on ne consomme plus que l'on produit. On a une augmentation de la consommation d'eau qui est 6000 m3 par an et on produit moins d'eau qu'on en consomme. Donc forcément, il y a un problème. Les deux retenues collinaires ne fuient pas, ne produisent pas d'eau polluée. Elles produisent de l'eau totalement correcte qui ensuite passe dans deux usines de potabilisation et il en ressort de l'eau de qualité standard qui répond aux normes européennes, comme vous parliez de la Bretagne tout à l'heure, donc de l'eau de qualité équivalente aux autres villes de France. La problématique, elle n'est pas sur la qualité de l'eau. La problématique, elle est sur la quantité de personnes présentes sur l'île qui consomment de l'eau et une politique publique qui n'a pas été définie pour le nombre de personnes réellement présentes. Donc, on n'a pas suffisamment d'eau pour tout le monde. Des forages ont été construits, on produit de plus en plus, une usine de dessalement est en cours de construction, mais c'est la course à l'échalote. En fait, on va toujours consommer plus que ce que l'on va produire. C'est ça la vraie difficulté.
D'accord, donc effectivement...
Non, mais ça, il y a une vraie difficulté, mais si vous voulez, alors, ce que vous me dites, moi, je le respecte énormément, puisque vous êtes là, moi, je ne suis pas. Pourtant, tous les jours, je vois des problèmes. L'eau n'est pas potable. Pas plus tard que cet après-midi, on me dit, dans une école, l'eau n'est pas potable. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'avant le cyclone Chido, il y a eu des études faites, etc. Il y a même eu des actions juridiques qui ont été faites par Mayotte à soif.
Et qu'elle a toutes perdues. Elle les a toutes perdues. Racha Moussikoudine les a toutes perdues, ces actions en justice. Et les tribunaux ont reconnu que les autorités avaient fait le travail qu'il était normal et possible de faire dans les situations qu'on a traversées et qui sont éminemment compliquées et difficiles. Hein. On manque d'eau depuis de nombreuses années. Hein. Et aujourd'hui, pour vous dire, hein, toute la population de Mayotte vit avec 48 heures d'eau au robinet, 48 heures de coupure, 48 heures d'eau au robinet, 48 heures de coupure. C'est notre rythme. Mais les Antilles, c'est pareil.
D'accord.
On n'est pas l'Afrique.
Okay.
Bon, juste une dernière question.
Oui, Serge.
Est-ce qu'on traite l'eau de pluie? Est-ce que vous utilisez l'eau de pluie?
Non, pas du tout. L'eau de pluie n'est pas récupérée et n'est pas utilisée.
Et pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de réseau pour récupérer les eaux de pluie, ça n'a jamais
non,
été fabriqué. On est un département depuis 10 ans.
Parce que les normes françaises interdisent.
D'accord. On va pas pouvoir tout traiter. Là, on me dit qu'il va falloir passer à notre deuxième pause musicale. Serge, écoute, on te remercie beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup d'échanges à avoir.
Ah,
et puis, effectivement, des réalités mahoraises qui sont difficiles à percevoir depuis la France. Et manifestement, tous les schémas ne sont pas forcément équivalents. Et il va falloir creuser la question. Bon, en tout cas, Serge, merci beaucoup. Et puis, bonne chance à vous. Et puis, à bientôt. Salut.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Mauwa mailera, mauwa mailera,
Eh bien, Anne-Constance, c'était quoi comme musique celle-ci ?
Ah, je sais pas, je connais pas.
Tu connaissais
pas. Je suis désolée.
Bon, bah, écoute. Voilà. Bon, alors, on va passer à un autre sujet, mais qui est assez lié avec, malgré tout, celui qu'on vient d'aborder sur la question un petit peu de l'état des lieux. De quoi a besoin Mayotte ? Quelle est la situation mahoraise ? Alors, pour tout dire, pour préparer cette émission, j'ai été fouiné à droite à gauche, faire un peu de biblio, comme on m'a appris à la fac. Et puis, j'étais un peu surpris, je ne trouvais pas de documents bien clairs, d'atlas. Vous l'avez compris, je suis géographe d'origine, donc j'ai mes petits réflexes. Donc je suis allé fouiner sur le net. Alors j'ai bien trouvé un bouquin que vient de sortir les éditions Orphée, qui est spécialisé sur les territoires d'outre-mer. Ils ont sorti avec l'université Paul Valéry de Montpellier un énorme pavé qui pèse 1,5 kg, 300 pages sur sur l'atlas des ruralités mahoraises. Donc effectivement, c'est une mine d'informations et ça pèse aussi lourd qu'une mine pratiquement. Donc je vous disais, 1,5 kg, ça ne tient pas dans les mains. Et on se dit que c'est pas comme ça qu'on va quand même pouvoir faire comprendre les réalités mahoraises à l'ensemble de la France. Parce qu'il y a besoin de savoir, ce 101e département français, quelle est la réalité de la condition de vie, l'eau, pas d'eau, de puits, d'adduction d'eau, est-ce qu'il y a des routes, est-ce qu'il y a des écoles suffisamment, sachant que il y a une réalité mahoraise qui est évidente, c'est la question de la population. Ça m'a impressionné. Elle a quintuplé en l'espace de 30 ans, c'est de l'inédit, il n'y a pas d'équivalent en France, et je ne sais même pas si dans beaucoup de territoires européens ou mondiaux, on a pu voir des choses pareilles. Donc je me suis allé à la recherche de géographes, de gens qui pouvaient un petit peu m'en dire plus, et puis je suis tombé sur Séverin Ménard, qui répondait à Google sous l'item libre géographe. Alors je me suis dit, un libre géographe, ça doit avoir des choses à dire. Donc on a réussi à se joindre par téléphone, par WhatsApp ou je ne sais plus quoi. Et donc Séverin, te voilà ici au micro et nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un libre géographe, pourquoi ça ? Il y a des géographes enchaînés et puis d'autres qui sont libres. Explique-moi ça.
Les libres géographes, formellement, si on veut, c'est une association de loi de 1901 qu'on a créée en 2017. Mais avant ça, c'est un collectif de personnes qui ne sont pas forcément des géographes, d'ailleurs, mais qui sont retrouvées d'une manière à affirmer un projet en lien avec la cartographie qui s'appelle le projet OpenStreetMap.
D'accord.
Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le projet OpenStreetMap ? Le projet OpenStreetMap, c'est un peu l'équivalent de Wikipédia, mais pour les cartes. C'est un projet wiki dans lequel, comme sur Wikipédia, vous allez avoir des ressources et vous allez pouvoir y contribuer. Dans Wikipédia, on peut très facilement se créer un compte et à partir de là, on modifie un article ou on crée un nouveau. Dans Wikipédia, c'est souvent assez compliqué. Si vous créez un article sur quelqu'un qui n'est pas connu ou sur un thème qui ne fait pas sens pour la communauté, vous allez être rejeté. Dans OpenStreetMap, c'est plus simple. En fait, généralement, vous allez pouvoir créer à peu près les données qui vous semblent intéressantes sur des choses qui sont vérifiables sur le terrain. Donc dans OpenStreetMap, on va trouver des routes, on va trouver des bâtiments, on va trouver des équipements, on va trouver tout ce qui concerne l'occupation du sol, le territoire de l'économie, les réseaux, etc. Alors des choses qui sont visibles sur le terrain, mais aussi des choses qu'on ne voit pas directement, mais qui sont inscrites dans le territoire, comme les lignes de transport ou les limites administratives. Toutes ces données, vous allez me dire, ça me fait penser à quelque chose. C'est pas Google Maps, ça ? Oui, c'est un peu ce qu'on trouve dans Google Maps. Sauf que Google Maps, c'est pas libre du tout. Google Maps, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, vous pouvez faire plein de recherches, etc. C'est le réflexe que tout le monde a, parce que tout le monde a un smartphone et que Google Maps, c'est la première application qui est utilisée. Généralement, dès qu'on fait une recherche géographique, mais vous pouvez pas télécharger la donnée. Google Maps aussi, on a vu récemment que, par exemple, ils ont été obligés de renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique au territoire américain.
Répondre aux injonctions trumpiennes.
Voilà. Alors, il y a d'autres injonctions qui sont plus anciennes. C'est par exemple en Chine, on les a obligés à... Les données Google sur la Chine, elles sont fausses. Elles sont faussées automatiquement par un algorithme, parce que le gouvernement chinois a dit « on ne veut pas que vous mettiez des données précises sur notre territoire, donc il faut que vous les faussiez, sinon vous dégagez. Voilà. » OpenStreetMap, c'est de la donnée libre qui est créée par les citoyens, et on va pouvoir en plus rajouter la donnée qu'on veut et la corriger nous-mêmes. Et ça change tout. Parce que Google ou d'autres, la donnée, vous ne pouvez pas la corriger directement, et quand il y a un problème, vous êtes obligé de faire une demande et ça ne marche pas. C'était l'année dernière, mes parents habitent dans une résidence secondaire dans un...
À Mayotte ?
Non, dans un petit hameau éloigné du village.
Ils ne l'ont plus alors.
dans un hameau, un lieu dit en dehors du village. Et j'ai eu besoin de prendre le train, un taxi devait venir. Et je lui ai envoyé un lien pour venir, en utilisant une application d'OpenStreetMap. Et puis il m'a dit, en arrivant, avec un peu de retard, « Vous avez bien fait de m'envoyer ça, parce que j'ai utilisé Google, et puis il m'avait envoyé sur un petit chemin là qui montait, et je vois très bien le chemin, c'est, à part en 4x4 en franchissement, c'est impossible de passer. » Voilà.
Donc tu nous dis que tes données libres sont plus fiables que celles de Google.
Carrément, oui.
D'accord.
Il y a plein d'histoires de Google où les gens sont envoyés, ils ont suivi leur GPS comme si c'était la Bible, et ils se sont retrouvés plantés.
D'accord. Mais bon, alors, grosso modo, tu nous dis qu'avec OpenStreetMap, on va pouvoir comprendre la situation de Mayotte ou pas ?
Alors, pour en revenir à Mayotte, effectivement, Tu m'as retrouvé par l'aspect libre, mais il y avait quelque chose que j'étais justement en train de faire sur Mayotte. Sur Mayotte, moi, quand c'est arrivé, j'ai pas donc du vécu comme Anne Constant. J'étais dans un avion.
J'étais au chaud.
Non, je savais que ça allait arriver. On nous avait prévenu dans les médias que bon, a priori, Mayotte va prendre
un
gros carton. Et moi, je voyageais et je voyageais entre le Brésil et la France. Et en arrivant, ça vous avait pris très très cher et beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec OpenStreetMap ? OpenStreetMap a la communauté. C'est une communauté riche de plusieurs millions de membres. C'est 55 000 personnes qui vont dans le monde entier.
C'est la force de la coopération, c'est la force du
oui, c'est ça, du nombre, etc.
Et non pas de la compétition.
Non. Et c'est une mobilisation qui existe depuis Haïti en 2010 pour cartographier des territoires en crise, pour fournir en fait la donnée la plus précise possible qui peut servir aux humanitaires.
Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? Qu'est-ce que tu as découvert ?
Alors, pour Mayotte... Mais Mayotte, en fait, la communauté s'était déjà
mobilisée
pour cartographier le bâti avant le désastre. Parce que les imageries satellites, on peut faire des cartographies sur le terrain avec OpenStreetMap, on peut utiliser aussi des imageries satellitaires. Celles qu'on a à notre disposition, elles sont généralement, elles ont 2-3 ans. Donc on fait souvent de la cartographie pré-désastre. Et là, pour cette fois-ci, on avait accès à l'imagerie post-désastre, après le désastre, fourni dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Copernicus.
Oui, qui est bien connu pour les gens du secteur. Donc effectivement, voilà. J'ai suivi ça pour les feux de forêt, mais bon. Et effectivement, ça fait partie de ces fournisseurs de données tout à fait précieux. Heureusement qu'on a ce genre de données. Oui.
Et on avait donc des imageries sur Mayotte, alors avec certains secteurs pleins de nuages, mais d'autres zones complètement visibles, pour les 17, 18... 20 et 21 décembre, le Chido c'était le 14, donc on avait vraiment différentes photos de la situation juste après le désastre. Et mon idée c'était de cartographier les dommages sur Chido à l'aide de ces imageries. Donc, alors il y avait des choses comme ça qui avaient été faites dans le cadre d'OpenStreetMap dans le passé. Il a fallu retravailler un petit peu la méthodologie pour la rendre bien, bien simple. Et à partir... Ma méthodologie, c'est on cartographie le niveau de dommage. Est-ce qu'il n'y a pas de dommage ? Un petit peu ? Beaucoup ? C'est-à-dire, le toit est parti ou c'est complètement écrasé, il n'y a même plus de mur. Voilà, c'est ces quatre catégories.
Et alors, donc tu vas pouvoir nous faire la carte des dégâts, un peu un diagnostic. Ça peut se faire vite, ça, parce qu'on est 2 mois après.
Ça ne se fait pas forcément rapidement. Il y a quand même... Dans OpenStreetMap, il y a 93 000 bâtiments sur Mayotte. C'est un gros morceau. Alors Copernicus avait aussi fait une analyse alors uniquement sur la zone la plus affectée et à l'est de l'île, celle qui a le plus pris. Mais il y a également à l'ouest une zone, enfin toute la zone ouest également de l'île à la même latitude a également été alors un peu moins affectée mais quand même pas mal affectée.
Bon c'est vrai on va être pris par le temps. Dis-moi comment on peut te joindre, qu'est-ce qu'on peut faire. J'imagine qu'on peut aussi aller sur AliGrefM et on mettra tes coordonnées. Est-ce que tu vas pouvoir aider Mayotte à faire un état des lieux avec ta communauté.
Le but, c'est de produire en fait cette carte des dommages de Chido le plus possible sur l'ensemble de l'île. C'est pour laisser ça. C'est fait partie de l'histoire de Mayotte. Mm-hmm. C'est quelque chose qui peut servir, etc. Alors, c'est pas fait juste au sein de la communauté Open Suite Map. On est en lien avec des gens, par exemple du centre scientifique et technique du bâtiment, qui vont
CSTB,
qui dépendent d'un ministère et qui vont bientôt aller sur le terrain pour faire également une enquête. Sur le terrain avec ils ont un questionnaire, 25 questions, etc. Des gens qui ont l'habitude de faire ça. Mais ça donne un bon aperçu sur ce qu'on peut faire sur Mayotte. Moi, je dirais aussi, au-delà de Mayotte, c'est une manière de fournir une méthodologie pour que ça puisse être répliqué dans d'autres pays qui connaîtront
tu anticipes les conséquences dramatiques du réchauffement climatique.
Exactement.
Et donc, effectivement, si on pouvait faire un état des lieux et des connaissances sur Mayotte, pour faire simple, un atlas de Mayotte, pour savoir de quoi il en retourne dans ce 101e département. C'est vrai que moi, je rêve de faire peut-être ensemble, on va peut-être regarder ça, faire un atlas pour faire comprendre Mayotte à la France entière. Quoi, parce que,
Puis c'est très précieux parce que nous, on manque de données, on lutte pour en avoir. Mmh. Et c'est vrai que d'avoir des photos avant le 14, des représentations dans les jours qui ont suivi, puis peut-être après, dans 6 mois, dans 1 an, de voir comment les choses ont évolué, bon, c'est aussi très important.
Les amis, il va falloir terminer. Il me reste à remercier notre équipe de la technique, Sefrem Famille, Damien Gilles, ça, Lucas Peinture, Matin Jalali. En tout cas, merci beaucoup les gars, vous avez assuré les liaisons et c'était pas facile. Heureusement que vous êtes là, sinon on serait pas grand chose sans vous les gars. Bon, à la semaine prochaine, je compte sur vous. Et bonne semaine à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez AliGrefM 93.1.